La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure, comme chaque jour, de découvrir la solution avec Elisabeth Assayag.
On est surconnecté, mais pour les plus anciens, ce n'est pas évident hein, d'envoyer un mail, de surfer sur Internet. Elisabeth, un magazine dédié justement aux oubliés du numérique voit le jour et il s'appelle Plénior.
Oui, Plénior, savez-vous que selon une étude des Petits Frères des Pauvres et de l'Institut CSA, 27% des personnes âgées de plus de 60 ans n'utilisent jamais Internet. On les appelle les exclus du numérique. Ça fait tout de même 4 millions de personnes. Alors même si la fracture numérique se résorbe gentiment, cela peut tout de même aggraver l'isolement relationnel. Ainsi, pour 3 euros, les personnes qui ne se connectent pas ou qui n'en ont pas la possibilité, ben justement, peuvent se plonger dans ce nouveau magazine qui leur enseigne et qui leur explique tout ce qu'il faut savoir pour aller sur la toile sans crainte, hein, comment faire pour envoyer un mail, comment ne pas se faire avoir en payant avec sa carte bleue en ligne. Toutes les réponses sont donc dans Plénior. Bonjour Pascal Bierensweig.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur des publications de ce magazine qui vous appartient. Comment vous est venue cette idée? Ce magazine que l'on voit en direct là sur Europe1.fr, avec à la une « Que choisir pour un senior, Mac ou PC ?» Vous, comment ça vous est venu cette
idée? Je dirige une maison d'édition qui édite des fiches pratiques pour aider les seniors à utiliser l'informatique depuis une quinzaine d'années. Et la demande était de plus en plus croissante et je pensais qu'il y avait la place pour un magazine dans les kiosques pour aider les seniors sur ces thématiques. D'autant plus que les seniors sont très attachés à l'écrit et ils vont facilement dans les kiosques acheter la presse. Donc, je trouvais que c'était une idée intéressante de développer ces thématiques dans un journal vendu en kiosque.
Mais vous avez pu la tester, ça ne vous est pas venu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une demande autour de vous.
Comme on est une petite entreprise, on a pratiqué...
complètement française.
Ouais, on a pratiqué un peu différemment. On a fait un numéro zéro qu'on a vendu en kiosque pour voir un peu l'appétence du public. On s'est aperçu qu'on en avait vendu quand même 3000.
Quelle audace hein, en ce moment.
Et c'est ce qu'on m'a dit, mais ça valait la peine. Et on a pu tester ce numéro. On a entendu les critiques de ce numéro. On a modifié un peu la maquette. Et on a donc maintenant sorti un vrai numéro 1 qui sort le dernier week-end de janvier.
Alors, voilà. On trouve quoi dans Plénior hein? Il y a énormément de thèmes qui sont abordés à destination des personnes
âgées. Oui, alors on va
âgées.
Trouver en général deux grands dossiers bien développés. Là, le grand dossier, c'est que choisir entre un PC, un Mac, ou bien même il y a des ordinateurs faits pour les seniors, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que ça ne vaut pas la peine?
Donc, vous apaisez les craintes hein, finalement. L'idée, c'est de faire de la pédagogie.
Voilà, l'idée, c'est surtout de faire de la pédagogie, de démystifier, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas.
Par exemple le chantage par email, les arnaques les plus répandues sur Internet concernant les soldes.
On se rend compte, parce qu'on a un service d'aide au téléphone pour nos abonnés, que les questions reviennent souvent sur ces thèmes-là. Et donc, c'est très souvent simple de se prémunir contre ce type d'arnaque. Et donc, du coup, en lisant quelques conseils, on y arrive facilement, mais simplement, il faut les connaître.
C'est ça, limiter les arnaques. Là, vous leur conseillez, vous faites un dossier spécial, passer à brève le navigateur qui respecte votre vie privée. Donc, on est dans cette espèce de sécurisation là, pour les rassurer.
Oui, puis d'autant plus que l'anonymat sur Internet, c'est devenu un enjeu majeur, important. Mm-hmm. Donc, du coup, d'avoir des navigateurs où on peut rester anonyme, où on ne laisse pas de traces de nos données personnelles, c'est important. Et souvent, les seniors, ils sont un peu effrayés par ça, donc c'est important de leur dire.
Catherine.
Alors, est-ce que vous faites un peu de pédagogie vers les objets connectés? Par exemple, on sait que souvent, vous faites intervenir dans la France Bouge plein d'objets, de technologies qui accompagnent les personnes âgées.
Oui, alors, en fait,
notre
objectif, c'est d'avoir au moins dans chaque numéro un objet connecté. On n'en a pas dans celui-là, on a eu dans le numéro 0, on a testé un bracelet connecté à 30 euros, qui était le moins cher du marché, pour savoir s'il était bien ou pas. On s'est aperçu qu'il était intéressant, donc on en a parlé. On participe à pas mal de salons sur les nouvelles technologies, donc il y a pas mal de choses qui sortent. Donc notre objectif, c'est d'aller aussi tester les nouveaux produits qui sont au service des seniors. Incroyable. Et il y en a beaucoup qui sortent en ce moment.
Qui s'adressent aux seniors et pas seulement, mais leur faire découvrir des choses qui peuvent les intéresser. Je pense à la dernière page, l'application WeWards, d'être rémunéré en marchant.
Oui,
ça
alors,
veut dire, vous pouvez aller, continuer à aller faire votre promenade, ça peut ça
oui,
peut
alors on a trouvé que c'était vraiment intéressant
on
comme,
connaît, hein,
comme,
oui,
comme
on
application, parce que d'abord, ça permet de, effectivement de redynamiser les centres-villes, de gagner un petit peu d'argent, puis de bouger. Donc, c'est important aussi pour les seniors de bouger. Et puis, ça, c'est aussi ludique. Donc, ça doit être aussi amusant. Plénior, c'est plénitude et senior. Donc, les nouvelles technologies, c'est au service des seniors et c'est pour mieux vivre aussi.
Et l'objectif de tout ça, c'est qu'ils s'achètent un ordinateur et qu'ils se connectent aussi.
Ah, bah, bien sûr,
sans crainte.
Parce que ça crée du lien social aussi, les ordinateurs. Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur, quoi. Donc, c'est facile. On est là pour les aider, on est là pour leur conseiller.
3 euros donc le magazine, distribué partout en France aujourd'hui,
c'est
l'ambition
sera... Oui, il sera distribué, on doit avoir 3 ou 4 000 kiosques pour le prochain numéro dans toute la France.
Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous faire découvrir Plénior, le premier magazine des seniors connectés. Merci d'avoir été avec nous pour cette solution.
Merci beaucoup.
Il est midi 57.
Europe 1. On reste ensemble. Et si la mobilité professionnelle était possible, vous pensez que ça n'est pas pour vous? Alors on vous aide aujourd'hui. Changer de vie, de ville, c'est compatible. La preuve dans un instant sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge et elle n'a jamais aussi bien porté son nom parce qu'aujourd'hui nous faisons nos valises pour parler mobilité professionnelle. Si vous avez envie de rentrer dans votre région d'origine ou de quitter une grande ville mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, on va essayer de vous montrer qu'il existe des moyens de vous aider. Bonjour Dominique Valentin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Relais d'entreprise. Vous êtes, vous, je crois, originaire d'un village dans les Ardennes, c'est ça, qui compte 500 habitants. Et vous avez toujours eu personnellement besoin et envie de vivre au milieu de la nature, en dehors des villes. Et c'est ce qui vous a poussé en quelque sorte à mettre en place ces relais. Racontez-moi comment vous est venue l'idée.
Tout à fait. Originaire à la fois du monde agricole et d'un village ardennais de moins de 500 habitants, comme beaucoup de Français et d'actifs, j'étais amené à faire mes études dans les grandes villes, ensuite mes premiers pas professionnels dans des grandes métropoles. Mais j'ai toujours eu à cœur à retrouver cette qualité de vie dans des territoires dits ruraux ou périurbains. Sauf que très rapidement, je me suis rendu compte que la mobilité était compliquée. Que lorsqu'il s'agissait de se rendre sur des bureaux qui se situaient dans des grandes villes, on se retrouvait coincé dans les embouteillages et en même temps de voir ces villages se vider les uns derrière les autres. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de créer Relais d'entreprise pour rapprocher l'emploi à l'habitat et contribuer au rééquilibrage des territoires.
Alors rééquilibrer en offrant une sorte d'interface, c'est-à-dire un lieu qui va être à mi-chemin entre le télétravail et l'espace de coworking, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de travailler à l'extérieur de la société dans laquelle on est employé.
Complètement. On milite beaucoup pour une mobilité choisie à deux pas plutôt qu'une mobilité subie à 7 lieues. 7 lieues, 28 km, c'est la moyenne des déplacements domicile-travail. Et on sait très bien que le télétravail va se développer pour plusieurs raisons, parce qu'on a aujourd'hui des métiers qui peuvent s'effectuer à distance. On est dans une économie du tertiaire. Le management à la confiance. L'ordonnance Macron a facilité la mise en place du télétravail. Et on est aussi dans une recherche d'une qualité de vie et d'une prise de conscience des empreintes environnementales de la mobilité. Et c'est en ce sens que il faut à la fois réfléchir sa mobilité différemment sans pour autant se retrouver isolé à la maison.
Ça, c'est le risque, vous dites, avec le télétravail?
Complètement. Et notion de tiers-lieu, quand on parle de tiers-lieu, c'est le troisième lieu qui n'est ni le bureau dans lequel on se rend habituellement, ni la maison qui peut amener aussi la suspicion du manager. Et puis, on n'a pas toujours un environnement propice au travail à la maison.
Ouais, j'aime beaucoup, vous dites, on est le lavoir numérique des temps modernes.
Oui, c'est cette formulation qui permet de montrer aussi que ces espaces dans lesquels on vient effectuer un travail sont aussi des lieux de rencontre, des lieux d'effervescence. C'est un peu macho ce que je vais dire, mais à l'époque des lavoirs, on venait laver son linge, mais en même temps, c'était le Facebook, le réseau social de l'époque. Et on avait aussi le café, qui était aussi l'autre réseau social, cette fois-ci plus pour les hommes. C'était une réalité. Maintenant, il faut recréer à la fois des conditions pour effectuer son travail et en même temps créer du lien. Et c'est pour ça que de nombreux villages peuvent avoir cet effet de levier, actions à actionner.
Justement, Elisabeth, la mobilité professionnelle, ça concerne beaucoup de monde aujourd'hui.
8,7% des salariés ont changé de zone géographique dans le privé, contre 4,2% dans la fonction publique. Hein. C'est une enquête qui a été effectuée par l'INSEE récemment. C'est évident, c'est plus fréquent pour les jeunes hein, qui sont en insertion professionnelle, donc ils n'ont pas forcément de charges financières très, très élevées, pas de famille à porter. Dans le privé, les cadres sont moins mobiles que les autres catégories, avec notamment un effet de concentration forte sur la zone d'emploi, évidemment, en région parisienne. Dans le public, c'est l'inverse, les cadres sont beaucoup plus mobiles.
Alors justement, moi j'aimerais savoir comment vous avez identifié les lieux où vous avez installé ces fameux tiers-lieux. Vous travaillez en partenariat avec les collectivités qui vous disent, ben là j'ai un bâtiment qui est vide, vous pouvez vous y installer ?
Alors tout à fait, nous accompagnons principalement les territoires ruraux à l'échelle d'une commune ou d'une communauté de communes dans une étude de faisabilité, une étude de dimensionnement, parce que chaque territoire a ses particularités. Et ensuite, on va avoir à cœur de regarder quels sont les bâtiments publics qui peuvent être facilement réhabilités. Il y a pléthore de bâtiments, des anciennes écoles, parce qu'il y a eu un pôle scolaire, une ancienne trésorerie. Ce sont des bâtiments souvent très bien situé dans des centres-bourgs, près de la place du village. Et on va regarder si le coût de la rénovation, de la réhabilitation, va permettre ensuite d'avoir un équilibre économique en fonction du potentiel que l'on aura recensé, puisqu'on va interroger la population, on va faire une enquête, on va regarder quels sont les premiers utilisateurs pour voir ensuite qui va gérer le lieu. Est-ce que le lieu sera géré par la collectivité elle-même ou est-ce que ce seront des privés ou des associations qui vont animer l'espace, parce qu'il peut y avoir aussi une nécessité d'animer ces espaces.
Oui, vous êtes dans le Gers, le Doubs, en Guadeloupe, dans la Nièvre, le Cantal, le Jura, effectivement des zones rurales, des zones qui en tout cas ont besoin de faire savoir qu'elles ont un bassin d'emploi, un potentiel aussi. Catherine Testa, notre coach.
Alors moi je suis une enfant du digital, mais je crois profondément au café en fait. Mmh. À la force du bar, je travaille dans les bars dès que je suis en déplacement, parce que ça crée de la curiosité et de la mixité. Quand on est sur le territoire aujourd'hui, qui vient... Alors, votre site, déjà, est une mine d'or hein, pour tout ce qui est tiers-lieux. C'est incroyable, il faut vraiment aller le visiter. Mais si on est une collectivité territoriale, si on est un particulier, qu'on a envie de monter un tiers-lieu, on s'adresse à vous. Comment ça fonctionne, en fait ?
Oui, on s'adresse à nous. Alors, soit le lieu n'existe pas et on va apporter toute notre expertise sur le dimensionnement, ce que j'évoquais en lien avec les collectivités, mais aussi avec le privé, avec un focus quand même spécifique sur le modèle économique. Parce que on a effectivement, nous, au niveau de Relais Entreprises, beaucoup de valeurs en lien avec l'économie sociale et solidaire, en lien avec l'environnement. Mais on sait très bien que si le lieu n'est pas équilibré sur le plan économique, il ne sera pas pérenne. Et donc, l'impact territorial ne sera que de courte durée. Ou alors, il faudra aller chercher les subventions, les aides, et on sait très bien à un moment ou à un autre qu'un modèle économique ne peut pas fonctionner uniquement sur les subventions. Donc on va avoir à cœur de pouvoir accompagner ces porteurs de projets, et ensuite, parce qu'il y a beaucoup de lieux qui se sont créés, on n'a pas, nous, l'exclusivité de l'accompagnement de tous les lieux en France. Il y a un peu plus de 1700 espaces coworking tiers-lieux, avec une forte concentration dans les villes, mais aussi dans les territoires ruraux, mais sauf que beaucoup de lieux n'ont pas de visibilité de leur offre. Ils vont avoir un nom très spécifique, en lien peut-être avec l'ancienne vocation du bâtiment, le chai, parce que c'était un ancien endroit pour faire la vigne, mais on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Et c'est pour ça que Relais Entreprises est devenue la première enseigne nationale d'espace de télétravail en milieu rural et périurbain, justement pour donner cette lisibilité.
Vous en avez une centaine aujourd'hui ?
Oui, une centaine, un peu partout. Mais
combien en devenir ?
Alors, on a une ambition de 1500. Pourquoi 1500 ? On aurait pu mettre 2000, 3000. Il y a un potentiel facilement de plus de 10 000 tiers-lieux à horizon 2025, parce qu'il faut couvrir les différents espaces de vie. Et on sait que la zone d'influence d'un tiers-lieu d'activité, lorsqu'on veut s'affranchir d'une mobilité, est très courte. On ne va pas faire une demi-heure pour s'affranchir de 45 minutes ou une heure de temps de trajet. Et en fait, 1500, c'était le nombre de relais de poste qu'il y avait à la belle époque. Et en fait, quand on a créé Relais Entreprises, on a fait référence à cette notion de relais de poste. Hein, et là, on veut être, nous, le relais des entreprises. Et c'est pour ça qu'il y a un S à entreprise.
On reste ensemble et on continue notre mobilité professionnelle aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Changer de travail et de région, c'est aussi emmener les siens dans ses bagages et si on aidait aussi à l'installation de toute la famille. C'est possible, vous allez voir comment. À tout de suite.
Cet après-midi dans La France Bouge, on vous donne des solutions si vous avez envie de changer de travail et surtout de région. Si c'est votre cas, que vous avez des questions, écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous au 3921 Raphaël.
Que ce soit notre entreprise qui déménage ou nous qui décidons de changer de ville pour changer d'horizon, il faut à chaque fois emmener sa famille avec soi. Et cela implique forcément que le conjoint aussi change d'emploi, de vie professionnelle. Bonjour Luc Morena.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Ma Nouvelle Ville. Et alors votre mission, c'est précisément d'aider ces familles à s'installer ailleurs. Donc vous aidez les gens qui veulent déménager, qui veulent changer d'horizon à trouver le lieu, le bon endroit où s'installer. Comment est-ce que vous faites ?
On est une entreprise de prestation de services. Notre travail est essentiellement lié à l'emploi. À chaque fois que vous êtes en train de vous poser une question sur une mobilité au sein de votre entreprise ou un mouvement pour reprendre un nouvel emploi et que vous êtes amené à déménager, eh bien à ce moment-là, soit vous vous débrouillez tout seul parce que vous l'avez fait souvent, parce que vous êtes issu d'une famille qui a l'habitude, soit vous êtes aidé par rapport à une famille qui va vous accueillir à l'autre bout de la France dont vous êtes originaire. Si vous partez dans le Var, par exemple, vous y connaissez déjà. Ou alors...
Mais si, par exemple, je veux m'installer à Brest, ne connais personne. J'ai trouvé un travail à Brest. En revanche, mon conjoint n'en a pas. Je ne sais pas où scolariser mon fils ou ma fille. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?
Ce qu'on fait, c'est qu'on a un entretien ensemble. On a un lien extrêmement étroit avec les entreprises, les directions des ressources humaines, pour savoir de quelle manière on peut amener ce sujet. On est, je dirais presque, une prolongation du bras de la direction des ressources humaines de l'entreprise. On comprend avec l'entreprise ce qu'elle est prête à faire pour son salarié, lui payer le déménagement, lui donner une prime particulière, lui payer partiellement un logement, accepter le télétravail dont on vient de parler, accepter un travail en tiers-lieu. Et on a un vrai entretien poussé avec le salarié pour comprendre quels seraient les freins qui le concernent à une mobilité. Et le diagnostic est simple, il est au travers trois schémas de discussion. La question résidentielle, quand vous habitez à Paris, si vous voulez aller vivre, est-ce que vous êtes propriétaire ? Est-ce que vous avez toujours rêvé de le devenir ? Et pour le coup, la mobilité sera sans doute beaucoup plus facile si vous allez à Brest.
Vous allez aider, vous, à la recherche d'un logement, à la recherche d'activités périscolaires pour les enfants, par exemple ?
On va aborder tous ces sujets-là lors de l'entretien et on va aller jusqu'à, évidemment, surtout, faire le cœur de la recherche qui est le logement.
Et alors, vous venez me chercher à la gare aussi, si j'ai besoin de vous, quand j'arrive à Brest ?
Oui.
Oui.
Et puis si vous venez en avion, on ira vous chercher là où il y aura à l'aéroport.
Oui, c'est un véritable accompagnement que vous proposez, hein, finalement, un premier pas vers l'intégration dans la nouvelle ville.
On s'occupe de tout à la place des gens, comme un chef d'orchestre, si vous voulez. On est au carrefour de différents métiers qui peuvent exister. Le but pour nous, c'est de faire en sorte que vous vous plaisiez le plus vite possible dans cette nouvelle ville qu'est Brest, là, par exemple. Ou si vous allez à Metz, en Moselle, qui est une superbe ville, eh bien, Metz, par exemple. Les mobilités sont parfois voulues, désirées. C'est un rêve. J'ai toujours rêvé de prendre tel emploi et puis j'ai ma possibilité. Ou alors, elles sont aussi parfois un peu subies parce que votre entreprise évolue. Ou alors parce que vous avez un conjoint qui, lui, bouge et vous le suivez.
Catherine Testa, notre coach.
Alors, c'est normal aussi que les DRH fassent appel à vous parce que vous libérez du temps de cerveau aux salariés, in fine. C'est quelque chose qui se pratiquait beaucoup jusque-là pour les expatriations. Enfin, on nous donne un pack pour se déplacer. Aujourd'hui, qui est votre prescripteur ? Pourquoi les collectivités territoriales, finalement, ne travaillent pas avec vous aussi et pas seulement les entreprises ? Parce que vous incitez aussi peut-être à redynamiser le territoire ?
Alors, je vais en citer deux que je veux mettre à l'honneur, qui est celle de Laval et celle de Nevers, par exemple,
d'accord,
qui se posent vraiment des questions d'attractivité. Okay. Vous avez aussi toute la Vendée, par exemple. Vous avez Figeac, différentes collectivités qui ont de l'emploi, qui ont du travail et qui comptent sur différents acteurs pour donner envie à des gens formés à l'autre bout de la France de venir s'épanouir dans cette nouvelle vie.
D'accord.
Vous êtes, je le précise, une filiale du groupe Action Logement. Vous avez eu vraiment à cœur, parce que vous n'étiez pas du tout dans cette partie-là, si j'ose dire, au départ. Vous aviez eu à cœur de faire quelque chose qui avait du sens et de vous rendre utile. C'est pour ça que vous avez rejoint ce groupe. Qu'est-ce qui se passe ? On travaille, c'est les entreprises qui viennent vous voir, c'est les salariés. Ça marche dans quel sens ? Dans les deux sens ?
Ça marche dans les deux sens, mais prioritairement, ce sont quand même les directions des ressources humaines. On leur apprend, on leur explique. Certaines sont extrêmement équipées, notamment les grandes entreprises, mais les plus petites ou les entreprises de taille intermédiaire, recrutent beaucoup moins, donc il ne faut pas qu'elles se trompent. Et puis parfois, ça les bloque dans leur développement économique. Donc, elles sont des promoteurs auprès des salariés ou des nouvelles recrues. Et puis après, ben, les salariés qui sont passés entre les mains expertes et enthousiastes des collaborateurs de ma nouvelle ville, eh bien, par la suite, ben, nous rappellent tout simplement. Ou alors, c'est d'autres collègues par le bouche à oreille qui viennent à nous.
Et vous avez aidé 25 000 familles en moyenne par an.
Alors l'année dernière, oui, c'est 25 000 familles qui nous ont sollicités et qui, pour un grand nombre d'entre elles, vont jusqu'à nous mandater pour chercher le logement et puis pour les aider dans ce cadre-là.
Elisabeth, quand on décide de bouger, est-ce qu'on part loin ?
En moyenne, à 163 km. C'est la moyenne qui est établie. C'est la distance entre la commune de départ et la commune d'arrivée. Elle est un peu plus grande dans le privé, près de 180 km en moyenne, et dans le public, en moyenne, 150 km.
Et alors, autre question, on bouge dans quel type de profession ? Est-ce que les hommes bougent plus que les femmes ou inversement ?
Alors, ce sont d'abord, dans le secteur privé, ce sont ouvriers et employés qui changent de zone d'emploi. Ça, c'est dans le secteur privé. Dans le public, les cadres sont beaucoup plus mobiles que les autres et ça concerne plus souvent les hommes. Ce sont eux qui changent de zone d'emploi et ça, peu importe le secteur.
Catherine Testa.
Ça a un côté aussi rassurant pour le salarié parce qu'il a un interlocuteur unique. Quand il est un peu perdu, ça lui fait quelqu'un aussi sur qui se reposer, j'imagine, parce qu'une expatriation ou un déménagement, c'est quand même complexe à gérer. On change les enfants d'école, etc. Donc j'imagine aussi qu'on fait appel à vous pour ça. Pour être un interlocuteur, un soutien, in fine, moral aussi, parce qu'on ne se rend pas compte forcément de l'impact.
Il n'y aurait rien de pire qu'une mobilité ratée parce que la personne ne se plaît pas dans sa nouvelle ville, tout simplement. C'est coûteux pour l'entreprise qui l'aurait embauché, et puis c'est coûteux pour lui en termes humains, pour sa famille. Et donc là, je crois que la meilleure satisfaction qu'on puisse avoir au bout du bout, c'est lorsqu'il y a la pendaison de la crémaillère que nos équipes sont invitées. Donc ça, c'est vraiment génial.
Ça vous arrive souvent ?
Ça arrive régulièrement.
Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui,
on
ça.
Reste ensemble et on continue à parler mobilité professionnelle aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h28.
Europe 1.
Et si on aidait aussi votre conjoint à retrouver du travail, certaines régions ont compris que c'était de leur intérêt pour attirer du monde. C'est ce que fait l'Agence de développement économique de Dordogne. A tout de suite. Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France bouge. Qui n'a jamais eu envie de changer de vie, de changer de région, de travail aussi peut-être ? Les solutions existent et on vous en livre quelques-unes dans La France bouge cet après-midi. Pour agir ou nous poser vos questions, il y a Twitter, hashtag Europe 1, et puis il y a aussi le téléphone Raphaël, le 3921. Et il y a des régions qui ont bien compris leur intérêt d'être attractives professionnellement parlant. C'est le cas en Dordogne. Bonjour François Gomet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, directeur de l'agence Périgord Développement. Vous avez mis en place le dispositif RESONE, R-E-S-O-N-E. Vous aidez notamment les conjoints à trouver un emploi parce que c'est aussi une réalité. Quand on est en famille, quand on est en couple, on déménage, ce n'est pas une personne qui s'en va, c'est deux, voire plusieurs.
C'est effectivement une obligation. Notre région, spontanément, elle est connue pour sa gastronomie,
certes,
son tourisme, ses sites archéologiques. Mais ce que l'on ne sait pas, ou moins du moins, c'est qu'il y a de nombreuses ETI. Une cinquantaine d'entreprises de plus de 100 salariés qui ont besoin de faire venir des talents. Des talents que l'on ne trouve pas toujours sur place.
C'est-à-dire des talents qui sont dans des domaines particuliers
dans des domaines parfois précis, des ingénieurs de production, des contrôleurs de gestion, des personnes dans la finance. Et donc, il faut aller chercher ces talents à l'extérieur, sur Paris, mais aussi dans d'autres grandes villes.
Alors, comment vous faites pour les faire venir, justement ?
Eh bien, pour les faire venir, on identifie naturellement une personne qui a à la fois la compétence et la volonté de venir sur le territoire. Et très vite, va se poser la question. Qu'est-ce que mon conjoint va pouvoir faire sur le territoire ? Et si on n'apporte pas de solution, c'est souvent bloquant.
Donc, vous essayez de trouver des solutions avec les entreprises que vous avez déjà dans votre réseau ?
Alors, nous avons constitué, dans le cadre de la Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne, le club d'une cinquantaine d'entreprises industrielles de plus de 100 salariés. Pour nous, ce sont les ETI du territoire. Et la plupart ont voulu, à l'initiative d'un des chefs d'entreprise, qui s'appelle Jean-Baptiste Van Esland, président de l'agence Périgord Développement, on a créé un dispositif qui s'appelle RESONE, Réseau Emploi Dordogne. C'est un réseau digital qui est géré par les RH, les DRH des entreprises concernées. Et lorsque finalement nous avons identifié, une entreprise a identifié un talent disposé à venir sur le territoire, eh bien immédiatement on propose d'afficher le CV du conjoint sur la banque de données.
Donc immédiatement le CV est visible par les entreprises
Absolument.
Du secteur.
Alors non seulement par les entreprises du secteur, mais également par les personnes susceptibles de venir. Elles peuvent voir quelles sont les offres d'emploi qui sont affichées.
Donc ça marche dans les deux sens. Les gens qui ont envie de venir en Dordogne.
D'une part, les offres d'emploi dont ont besoin les chefs d'entreprise et on affiche évidemment des CV qualifiés, dont en priorité les CV des conjoints.
Alors, je crois que le dispositif a 2 ans, c'est bien ça ?
Alors, le dispositif a été créé il y a 3 ans, mais on a
Il est véritablement actif depuis 2 ans.
Opérationnel depuis 2 ans, c'est la Chambre de commerce qui l'a...
Et alors, combien de personnes ont pu retrouver justement un emploi comme ça ?
Les statistiques, 2 ans et demi après, il y a 45 entreprises adhérentes. On a affiché 214 offres d'emploi, 92 recommandations venant de CV de conjoints ont été mis sur la banque de données et 55 recrutements ont été effectués.
Donc 55 personnes qui ont réellement trouvé Absolument. Un travail pour accompagner leur conjoint en Dordogne.
Tout à fait.
Vous avez présenté ce projet au niveau national, je crois, devant la Chambre de commerce.
Alors, ce dispositif a été présenté par le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Dordogne,
oui.
Lors d'une assemblée générale de CCI France. Et je crois qu'il a fait quelques émules, puisque d'autres territoires veulent dupliquer le dispositif Raisonne.
Par exemple, quels territoires sont intéressés ?
Alors, je sais que chez nous, Lot-et-Garonne met en place ce dispositif, et beaucoup d'autres territoires sur d'autres régions. Naturellement, sur tous les salons sur lesquels nous sommes présents, pour rechercher des investisseurs, mais aussi pour faire venir des talents, que ce
Bien
soit
sûr.
Aujourd'hui et demain, le salon mobilité et emploi à la Villette,
oui.
où ce dispositif va être présenté, mais au salon des entrepreneurs, Porte-Maillot, début février.
Où nous serons, évidemment, avec la France Bouge.
Voilà, et nous animerons des conférences et où le dispositif Raisonne sera largement présenté.
Catherine, notre coach.
Alors c'est intéressant parce que ça pallie aussi le fait que quand on arrive dans une région, on débarque, on n'a pas de réseau. Du coup, on a beaucoup de mal à trouver. On sait qu'à partir d'un certain poste aussi, les recrutements, ils se font tout simplement par recommandation. Est-ce que vous accompagnez aussi physiquement parlant ? Parce que oui, le digital, c'est chouette, mais quelqu'un qui est arrivé sur le territoire qui, depuis un an, n'a pas de boulot et que son conjoint travaille, est-ce que vous lui apportez un soutien plus physique, en fait, que digital ou pas encore ?
Alors, précisément, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un réseau digital qui était animé par okay. les DRH, les entreprises adhérentes.
D'accord.
Et c'est ce club de DRH, précisément, crée l'outil d'insertion des nouveaux arrivants dans l'environnement économique et social du territoire. On remet déjà un livret d'accueil du territoire.
OK.
Et puis, il y a, effectivement, des mesures d'accompagnement vers le logement, avec les dispositifs spécialisés du territoire, vers la scolarité, vers les clubs d'entreprise, c'est très important.
Okay. Du coup, il y a du lien humain.
Voilà, absolument. Okay. Et donc, c'est un package complet que nous proposons, que l'agence propose, finalement, via ce club de DRH, aux nouveaux arrivants qui s'insèrent dans l'environnement de notre territoire. Et je dois dire que lorsqu'on a réussi à les convaincre, eh bien, si on les interviewe quelques années après, ils ne le regrettent pas.
Ah oui, c'est beau la Dordogne, vous avez raison de le dire. On reste ensemble et on parle mobilité professionnelle aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h37.
Europe 1.
Et on vous attend en 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. Si vous aussi, vous avez envie de bouger, vous venez parler avec nous, mobilité professionnelle aujourd'hui. À tout de suite. Dans la France Bouge, cet après-midi, on parle de mobilité professionnelle et on en parle, Raphaël, avec vos invités. Nous sommes avec Dominique Valentin, président de Relais d'entreprise, François Gomet, président de l'agence de développement économique Périgord Développement, qui a mis en place le dispositif Raisonne en Dordogne, et Luc Morena, directeur général de Ma Nouvelle Ville, groupe Action Logement, société qui aide à l'installation des familles dans les territoires. Notre coach, c'est Catherine Testa, cofondatrice de L'Optimisme, premier site d'actualité positive en France, s'il vous plaît. Évidemment, Elisabeth Assayag est à mes côtés. Tiens, Elisabeth, vous avez trouvé des sites qui nous permettent de trouver justement un emploi dans l'endroit de nos rêves.
Eh bien, tout à fait. Vous avez par exemple commune opportunité. Là, c'est que vous connaissez. Vous cherchez une opportunité ou vous recherchez un territoire en particulier. Vous les rentrez sur le site internet commune opportunité et là s'affichent les offres qui sont en cours. Vous avez aussi SwitchUp. SwitchUp, vous vous connectez sur le site et là vous trouvez un ambassadeur pour vous accueillir dans la ville où vous allez vous installer. Là, c'est une fois que tout est réglé du point de vue du travail, là, c'est un ambassadeur qui va vous aider dans tous vos besoins, pour le logement, pour trouver des écoles, pour l'administration. C'est la plateforme qui accompagne toute la mobilité dans tous les détails pratiques.
Justement, cette mobilité, on en parlait tout à l'heure, il y avait un chiffre assez frappant que donnait Elisabeth, hein, 163 km en moyenne entre le point qu'on quitte et le point où on arrive. Est-ce que, par exemple, Dominique Valentin, on peut choisir de travailler à Paris et de vivre dans les Alpes-Maritimes, est-ce que c'est quelque chose qui est compatible avec ce que vous proposez ou est-ce que ça va peut-être se faire dans les années qui viennent ?
On constate une vraie tendance aujourd'hui d'entreprises dites agiles qui vont autoriser leurs salariés à vivre n'importe où parce que le management se fait à la confiance, parce qu'on a aujourd'hui des outils collaboratifs où avec une bonne visio, des bons outils de partage en ligne, on peut travailler tout aussi efficacement que si on se voyait tous les matins. Bien sûr, ça nécessitera à un moment ou à un autre des vrais moments de rencontre, des vrais moments de cohésion. Moi, je rêve qu'à un moment ou à un autre, l'évolution fasse en sorte que lorsqu'une entreprise ait un poste à pourvoir, indique le degré de télétravaillabilité.
Ouais. Se dire aujourd'hui, automatique désormais.
Voilà, ça serait automatique de dire aujourd'hui, non, c'est un poste qui est en présentiel parce que soudeur, parce que c'est quelqu'un qui va travailler sur une machine, donc il n'y a pas d'autre solution, il doit être en présentiel. Mais il peut y avoir des fonctions support qui, un jour par semaine, peuvent être en télétravail et d'autres avec plus de recul parce qu'il y a aussi des actions terrain, c'est 2 jours par semaine, jusqu'à 5 jours par semaine. Parce que ça permettra à des personnes de pouvoir repenser complètement lieu de vie, lieu de travail et d'accepter des postes qui pourtant étaient trop éloignés de leur lieu de domicile.
On a une question sur Twitter, Céline.
Oui, c'est Marc, hashtag Europe 1, qui nous dit « Le changement de vie du salarié subi et donc non désiré n'est-il pas plus difficile à gérer pour vous ?»
Ah, bonne question. Est-ce que quand on choisit et quand on subit, forcément, il y a une différence ? Est-ce que vous avez été confronté à ce type de cas, Luc Morena ?
Oui, on est confronté à ce type de cas. C'est pour ça qu'il faut un vrai entretien, une vraie confiance entre nos équipes qui sont des tiers de confiance objectifs par rapport aux directions des ressources humaines sur des sujets comme celui-ci, pour comprendre quels sont les freins. Parfois, on subit cette mobilité, mais on a besoin de travailler. Donc, on va au bout du bout déménager, l'accepter. Et il faut la comprendre parce que parfois, quand on fait 1h30 de transport, là, on voit avec les différentes grèves, ça peut poser des problèmes et on a un équilibre de vie qu'on trouve équilibré, mais pour autant qui est complètement déstabilisé à cause des temps de transport, eh bien on peut, à force de discussion avec la personne, j'ai un exemple en tête, une personne qui se posait des questions, elle subissait une mobilité, et puis en fait, on lui a trouvé un club de hockey semi-professionnel pour son gamin. Voilà, et eh bien là, elle
le
était
frein
prête
est
à
élevé.
Quasi partout en France. Et le frein est élevé. Donc c'est des sujets de discussion, c'est des sujets subtils.
François Gommet, ça s'est présenté à l'inverse des gens qui n'avaient pas forcément, même si on l'imagine mal, envie de venir dans votre région. Comment est-ce qu'on arrive à les convaincre ? Comment est-ce qu'on lève justement ces freins ?
Alors, on arrive à les convaincre déjà par le fait même que les entreprises, du moins celles qui adhèrent à Raison, mettent en place
l'accompagnement.
Un accompagnement et se mettent en situation, finalement, de présenter l'entreprise avec avec leur stratégie propre et les perspectives d'évolution qu'il est possible d'apporter à l'intérieur de ces entreprises. Et puis après, le territoire et l'agence de développement en particulier, mais aussi ses partenaires. Nous avons un fort partenariat, par exemple, avec le conseil départemental de la Dordogne et la plupart des intercommunalités. Et nous cherchons finalement, sur le territoire, après un entretien approfondi, effectivement, à apporter finalement les réponses sur, je dirais, un certain nombre de points d'attente.
Oui, donc tout le monde se met en synergie, voilà, pour aller dans le même sens.
Et chez nous, finalement, l'ensemble des organismes publics et privés, on essaye de travailler dans le seul objectif, c'est de faire gagner finalement l'entreprise et faire en sorte finalement que la greffe des nouveaux arrivants prenne sur le territoire.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour parler travail et mobilité professionnelle aujourd'hui à l'occasion de ce salon qui se tient donc jusqu'à demain à Villepinte.
Mais il est 13h45.
Europe 1.
6 générations font vivre cette maison française qui fabrique notamment notre linge de lit. Yves Delorme et l'entreprise qui va bien, Céline, dans quelques minutes.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, c'est Yves Delorme, une maison qui est dans votre famille depuis 1845. Amaury Frémaux, bonjour.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être là. Vous êtes le président de Yves Delorme. C'est votre arrière-grand-tante Ernestine, hein, c'est bien ça, qui a décidé au départ de se lancer dans l'aventure. Elle a acheté tout simplement une machine à tisser qu'elle a mis dans son garage.
Voilà, en fait, il y a deux arrières de plus, puisque j'en suis la 6e génération dirigeante.
Arrière, j'en ai oublié deux, oui.
Voilà, qui a créé ça en 1845. À l'époque, c'était le métier à la mode de se mettre à tisser chez soi. Et donc, elle a commencé par acheter un métier à tisser pour faire du lin, du linge de maison en lin. Et puis, elle s'est développée doucement dans l'industrie.
Oui, ça va quand même assez vite parce que très rapidement, elle achète une deuxième machine. Vous dites qu'elle était un peu en mode start-up de l'époque, finalement.
Tout à fait. En fait, quand on voulait avoir une petite entreprise chez soi à l'époque, on achetait un métier à tisser. C'était, oui, la start-up de l'époque, exactement. Et puis très vite, oui, elle s'est développée, notamment à l'aide de ses deux neveux qui sont venus la rejoindre dans toute l'industrie, en intégrant doucement toute la chaîne industrielle. Donc, elle a commencé tisseuse. Puis plus tard, la société est devenue d'un côté aval confectionneur et puis de l'autre côté amont filateur, jusqu'à intégrer toute la chaîne de production textile. Dans les années 60-70, on était producteur depuis le coton qu'on achetait dans les champs jusqu'au produit fini.
Vous avez effectivement beaucoup développé l'aspect industriel. Vous avez eu à un moment donné jusqu'à 5000 personnes qui travaillaient pour vous. On sait que l'industrie textile a connu des hauts et des bas. Aujourd'hui, on est revenu à une taille un peu plus modeste, j'ai envie de dire, même si vous avez un millier de personnes qui travaillent toujours pour vous. Comment est-ce que ça s'est passé dans ces années un peu compliquées ?
En fait, on a eu la chance d'avoir une courbe qui s'est inversée dans notre société. Au fur et à mesure que l'industrie déclinait, nous, on faisait de plus en plus de produits finis et on s'intéressait de plus en plus au goût du consommateur et aller jusqu'à le chercher, le travailler en magasin. Et donc, à partir des années 90, on s'est mis à ouvrir de plus en plus de magasins, à être de plus en plus commerçants, jusqu'à aujourd'hui considérer que notre métier, c'est vraiment d'être commerçant. Alors que pendant, sur 175 ans d'existence, pendant 150 ans, j'allais dire, on se considérait industriel du textile. Aujourd'hui, on l'est encore un petit peu, puisqu'on a encore une centaine de personnes en industrie en France, mais on se considère comme des commerçants.
Tout est fait, tout est confectionné en France. C'est important de le dire. Vous avez parlé des usines, il y en a deux hein, qui fonctionnent encore.
Oui, alors c'est important de le dire, mais c'est aussi important d'être tout à fait transparent avec les consommateurs. Tout n'est pas vraiment fait en France. J'allais dire, il y a des matières que l'on ne peut pas travailler en France. Notamment, on travaille encore beaucoup en Italie. On travaille beaucoup aussi avec la Belgique pour des tissages. Et donc, on travaille en Europe et on essaye de concentrer un maximum en France. Donc, on a deux usines en France. On a une confection de linge de lit qui a 80 personnes environ situées dans le nord de la France. Et un tissage d'éponge qui est dans la Loire, qui a 25 personnes.
Justement, Catherine, vous aviez une question, je crois, à poser.
Oui. En termes d'engagement, développement durable, on ne les voit pas forcément apparaître sur votre site parce que vous avez une certaine humilité en fait, face à ça. Vous ne voulez pas en faire un outil marketing, mais est-ce que vous êtes engagé et depuis quand vous êtes engagé dans ce domaine-là ?
En fait, depuis toujours, notre production est locale et on cherche à l'avoir de plus en plus locale et on cherche à embaucher, notamment dans notre confection dans le Nord et aussi dans notre atelier de la Loire. Et donc, pour nous, ça, c'est normal de faire les choses et localement, dans des circuits courts et avec le plus d'engagement de durabilité possible. Alors c'est vrai que maintenant le consommateur a besoin de plus de transparence, a besoin de savoir ces choses et donc il va falloir qu'on communique plus là-dessus, même si pour nous c'était naturel et donc on ne voulait pas en faire un argument marketing. Mais c'est vrai que le consommateur le demande aujourd'hui et donc il sera assez facile pour nous d'être plus transparent sur ce point et c'est un de nos engagements de l'année 2020-21 à venir.
Vous avez développé aussi la gamme avec une ligne couture. Vous êtes membre du comité Colbert, hein, qui rassemble les grandes maisons françaises de luxe. C'est important, justement, ce positionnement, notamment à l'international.
C'est très important. Aujourd'hui, notre société exporte environ 80% de son chiffre d'affaires. Et pour exporter, les Américains, les Japonais, les Russes, ce qu'ils viennent chercher dans une production française, dans un produit textile français, c'est du haut de gamme, du très haut de gamme, du très beau. Et donc, le saut, j'allais dire le cachet du comité Colbert nous a aidés pour exporter et nous continue à nous aider. Et puis, ça nous guide aussi finalement en regardant un peu ce que font nos collègues du comité Colbert. Donc, c'est un très bon appui.
Ça vous incite aussi à aller racheter d'autres belles maisons. Hein. Je pense à Fischbacher, qui est une maison suisse, mais qui est très implantée sur l'Allemagne, le marché allemand. C'est un rachat qui s'est opéré l'année dernière, je crois.
Voilà. En janvier 2019, on a décidé de racheter la marque Christian Fischbacher Linge de Maison. Qui est différente de la marque Christian Fischbacher Ameublement. Enfin, avant, c'était la même maison, mais elle a été scindée en deux. Et chacun continue sa vie de son côté. Avec pour but de racheter, en fait, la marque de linge de lit de luxe qui était la numéro un sur le marché Allemagne, Suisse, Autriche. Donc vraiment, le pendant d'Yves Delorme, mais sur ces marchés-là, avec un goût plus adapté probablement à ces marchés-là, mais avec aussi des très belles matières et toute une supply chain que j'ai découverte avec beaucoup d'admiration, faite en Suisse. Que des usines suisses qui fabriquaient du linge de maison et donc avec la même méthode que ce que l'on cherche à faire pour Yves Delorme avec des usines françaises et une chaîne d'approvisionnement très courte, et ben là c'était fait en Suisse et donc la beauté de cette fabrication nous a incité à racheter cette marque.
Le groupe est toujours 100% familial, vous y êtes avec votre frère.
Tout à fait.
Votre père est toujours dans le conseil d'administration.
Tout à fait, président du conseil de surveillance.
Et c'est important de pouvoir garder ça en famille, cette transmission, sixième génération.
Je ne sais pas si c'est important, mais en tout cas, c'est notre vocation jusqu'à maintenant. On s'y plaît comme ça. J'ai donc la chance de diriger cette maison avec mon frère, mon petit frère, donc à 6 ans de moins que moi, qui est le directeur général et moi le président. Et pour l'instant, ça nous plaît comme ça. Et donc, on va essayer de continuer comme ça.
Eh bien, nous, on trouve que c'est une belle initiative que de continuer comme ça en famille parce qu'il faut défendre les savoir-faire français et les entreprises qui se transmettent de génération. Merci beaucoup d'être venu nous en parler de Yves Delorme, Amaury Frémaux, président de cette maison de linge de maison depuis 1845. Merci à Catherine Testa qui était notre coach aujourd'hui. Et nous, on se dit
à demain, Raphaël.
À demain midi.